Regard de femmes, les mardis de l'été 2019 à Saint-Jean-de-Luz, un cycle de conférences proposé par la paroisse Saint-Pierre de l'Océan.
Le don de la vie que nous dit la Bible à travers l'art, voici la conférence de Béatrice Bustaret, historienne de l'art, conférence enregistrée en l'église de Saint-Jean-de-Luz le 16 juillet 2019. L'intervention de Béatrice Bustaret est précédée du mot d'accueil de l'abbé Lionel Landard.
Chers amis, bonsoir. Et pour cette troisième conférence, dans le cadre des regards de femmes, eh bien c'est Béatrice Bustaret qui va prendre la parole. Alors, vous me disiez, Béatrice, que c'est une nouvelle conférence que vous donnez et que vous inaugurez ce soir.
Ouais.
Pour nous, merci beaucoup. Et par contre, vous êtes, vous, une habituée des conférences de Saint-Jean-de-Luz depuis quelques années, puisque vous y avez votre résidence de retraite, ancienne enseignante et éducatrice à Sainte-Marie de Neuilly et à Madeleine Danielou à Rueil. Vous êtes une femme qui avait beaucoup voyagé, notamment en Italie, ce qui a certainement ouvert les yeux de votre esprit, de votre corps et de votre cœur pour contempler les splendeurs que l'on peut y découvrir. Votre formation théologique s'est déroulée au Centre Sèvres, la faculté jésuite de Paris, et sur le plan artistique, à l'École du Louvre. Vous avez donné de nombreuses conférences sur des sujets d'iconographie chrétienne. Dans le flyer de ces conférences d'été, je vous ai nommé historienne de l'art. Je ne sais pas si c'est mieux d'être historienne de l'art ou artiste de l'histoire. Vous nous direz ce que vous préférez pour l'année prochaine. Ce soir, vous avez un titre qui est un titre qui nous concerne tous. Le don de la vie, le don de la vie que nous dit la Bible à travers l'art. Je vous souhaite la bienvenue et je vous donne la parole.
Merci. Merci Père de votre accueil chaleureux dans cette église que j'aime, moi aussi. Tout à l'heure, dans la visite, Gachoucha disait que les Lusiens sont fort attachés à leurs églises. Eh bien, les Lusiens d'été, les paroissiens d'été le sont fortement aussi. Merci beaucoup, merci à vous d'être là un jour de grand soleil, avec ce soir une pensée toute spéciale pour notre Jean Coste, notre ami, qui a porté les mardis de l'été pendant des années, et qui est en rééducation aux Embruns en ce moment. On pense à lui, on lui souhaite un rétablissement. Donc, oui, le don de la vie, ce n'est pas du tout un traité de bioéthique. Je ne soulèverai pas les questions brûlantes du moment, mais par contre, je me situerai en amont, largement en amont, et c'est mon sous-titre, « Que nous dit la Bible à travers l'art ?» Sans nier les problèmes, sans faire de l'angélisme, sans occulter les souffrances, je voudrais faire de cette rencontre une cause d'émerveillement, peut-être d'action de grâce. Que nous dit la Bible à travers l'art ? Eh bien, la première chose, c'est que la vie, c'est bon, et c'est même très bon. Et le premier à s'émerveiller, c'est Dieu lui-même. Donc, nous allons parler de tout cela, et comme toujours, un plan, ça s'annonce, et un plan, on m'a dit que ça se faisait en trois parties. Si je pouvais avoir l'image suivante. Bon, merci. Guillaume va me faire ça. Tu me passes les images quand je te fais signe, s'il te plaît. Si, elle est passée, ça y est, pardon. Petit problème de technique. Donc, dans une première partie, je reprendrai. Il dit que c'était bon, il vit que c'était bon, c'est-à-dire la création. Et vous allez reconnaître ici des images de création. Vous avez une enluminure médiévale. Voilà. Vous avez un vitrail de Bourges. Vous avez la dent de Notre-Dame de Paris à droite. Vous avez un tableau du XVIIe siècle. Vous avez une œuvre moderne, Chagall, disant cette beauté de la création. Dans une seconde partie, nous verrons que ce don de la vie, de la création, se perpétue par le couple, par les parents. Et la Bible nous offrira plusieurs récits de maternité, paternité inespérée, suivant la promesse donnée à Abraham, à droite, mosaïque du 5e siècle, à Zacharie, à gauche, une porte en cèdre, 5e siècle aussi, Et bien sûr, l'annonce principale au cœur de notre foi, c'est celle à Marie, l'Annonciation, qui a valu d'ailleurs, et c'est là où les deux annonces, Zacharie, Élisabeth et la Vierge, se retrouvent, cette rencontre de la Visitation qui est à gauche avec un l'avis tout à fait contemporain puisqu'il est de 2015. Et pour terminer, j'ai pris un malin plaisir à mettre une image de la tendresse maternelle que certains reconnaissent peut-être pas très loin d'ici, à Rambels, près de Ostabat. Mettre au monde, c'est très bien, mais il faut la faire grandir, la protéger, cette vie, la nourrir. Et nous regarderons successivement des images de la multiplication des pains. Celle que vous avez ici a été prise à Tabga, au lieu, en Terre Sainte, lieu de la multiplication des pains. Nous pouvons évoquer les noces de Cana. Ici, c'est une fresque qui se trouve au fin fond de la Russie. Nous savons aussi que le corps demande à être guéri. Et vous avez le paralytique à droite. Nous savons que le pardon est une façon de faire grandir la vie en remettant debout la femme adultère de Nicolas Poussin. Et dans la Bible, un certain nombre de retours à la vie, de résurrection, retour à la vie, j'emploie à dessein ce mot. Et à gauche, c'est Lazare. Vous aurez remarqué que sur ces 15 images, j'ai choisi absolument tous les supports, toutes les époques, sans faire attention à m'attarder sur une chronologie. Donc, vous allez vous promener et passer de l'Antiquité au XXe siècle. Et en conclusion, peut-être allons-nous percevoir que ce don de la vie se résume dans cette image que j'ai découverte tout récemment, près de Versailles, au Chênaie, l'église Notre-Dame de la Résurrection, et plus précisément dans ce vitrail que vous avez ici, 1970, et qui me semble être à la fois l'image de la création, celle de la Genèse, du Big Bang, l'explosion de la lumière, et aussi à l'autre bout, si je puis dire, celle de la nouvelle création, c'est-à-dire la résurrection, la force de vie exprimée par les couleurs du feu ardent, le rouge, de l'eau, le bleu, la lumière qui explose, traverse, repousse les zones d'ombre, c'est la vie tout entière récapitulée en Christ. Chacune des trois parties que je viens de mentionner sera annoncée par des phrases de cette admirable prière de Mère Teresa, « La vie est un don ». Commençons tout de suite avec la création. Les artistes nous ont montré bien des images de la création. La Bible nous en donne deux récits. Je ferai des allusions, je ne citerai pas longuement la Bible, je vous y renvoie si le cœur vous en dit. Lorsqu'il s'agit de montrer le déroulement des 6 jours, 7 jours de la création, comme dans le premier chapitre de la Genèse, ces images traitées de façon narrative se trouvent bien logiquement comme un récit dans un livre. Et c'est pourquoi je vais vous montrer deux magnifiques Bibles enluminées. Celle-ci, Bible de Souvigny, tout à fait à la fin du XIIe siècle, peut-être un des plus beaux manuscrits médiévaux, un des plus lourds en tout cas, 32 kilos, 200 peaux de mouton, 400 feuillets de 56 sur 70, 122 enluminures, 32 kilos. Le texte est en latin, une magnifique calligraphie avec des belles lettrines. Et puis, nous avons les images, chef-d'œuvre de l'art roman, encore marqué par Byzance, un certain hiératisme, avec le fond or qui exprime la transcendance de Dieu. Et donc, nous avons les différents moments des journées de la création, successivement la vision du Pantocrator, le Tout-Puissant, qui va séparer la lumière et les ténèbres, les eaux et le firmament, créer les animaux, poissons et oiseaux, créer les bêtes, créer l'homme et la femme, et une seule vignette, la création est simultanée. Il le créa, l'être humain, homme et femme, il les créa. Et elle s'achève sur la tentation et la chute. Mais je voudrais attirer votre attention sur ce détail merveilleux. dans les vignettes du haut, lorsque Dieu crée les astres, le firmament, regardez, il est placé bien frontalement au-dessus de la création. Lorsqu'il s'agit des êtres vivants, poissons, oiseaux, quadrupèdes, il se penche vers sa création. Et enfin, merveille des merveilles, lorsqu'il s'agit de l'homme, il descend, va jusqu'à le toucher. Et j'y vois une image de ce qui se passe dans tous les sacrements. Vous avez un signe corporel également. Donc, rappel de la dignité du corps. Une autre Bible, un petit peu plus tardive, un style bien différent. Elle a été faite à Paris au milieu du XIIIe siècle. Vous pouvez noter l'importance de l'image par rapport au texte. L'image tient beaucoup, beaucoup de place. Vous voyez que nous n'avons plus vraiment de fond d'or. On a changé de style. Le style s'adoucit. On passe vers des drapés plus souples. Vous avez un mélange des couleurs qui se répondent, bleu, rose et or. Vous avez lettrines et dessins dans les marges et on pourrait passer très longtemps rien qu'à regarder toute l'imagination et la verve des enlumineurs dans les marges. Vous avez deux registres et quatre scènes qui correspondent aux quatre premiers jours, c'est celle que j'ai choisie. À gauche, un fond d'or un petit peu irisé. Vous voyez une figure immense, celle de Dieu. Et vous remarquez qu'à cette période, XIIIe siècle, on ne montre pas un Dieu âgé et de différence, je veux dire un Dieu grand-père, pourrait-on dire, un Dieu avec barbe et cheveux blancs, mais on montre Dieu le Père, le Créateur, comme le Fils, sous l'image du Fils, Christomorphe, suivant la parole de Saint Jean, « Qui m'a vu a vu le Père ». C'est donc le Christ, Logos, la parole de Dieu, au commencement était le Verbe, dit Saint Jean également. Dieu crée en séparant ce qui est magma informe de ce qui va petit à petit prendre forme. Et la première séparation, un appel à la liberté qui n'est pas d'ailleurs dans la Genèse proprement dite, c'est la séparation des anges de lumière et des anges déchus. Vous avez en haut six anges nimbés aux ailes largement déployées qui acclament Dieu. Et puis vous avez ceux qui ont refusé cette proposition de Dieu, cet appel de Dieu. Vous les voyez tomber la tête en bas et c'est assez amusant de voir les grimaces qui peuvent se faire. Ils sont dans des couleurs verdâtres ou bleues, lumière, couleur des ténèbres et sous les pieds, nous avons Lucifer, le prince des ténèbres, sous les pieds de Dieu. Donc l'artiste ajoute quelque chose qui n'est pas directement dans le texte, mais c'est la volonté de montrer que dès l'origine, Dieu est vainqueur du mal. Suivent les jours suivants, les anges sont au ciel et Dieu va séparer le firmament, les eaux du haut avec les eaux du bas. C'est tout ce travail de mise en œuvre qui est le travail de la création mise en ordre. Il appela le firmament ciel. Vous avez également les grands luminaires. J'ai été un peu trop vite, vous avez déjà la végétation qui apparaît ici, arbre, et puis la vigne. L'enlumineur a voulu souligner l'importance du vin et de la vigne. Et puis, vous avez ici cette expression des grands luminaires que j'aime beaucoup, c'est-à-dire le ciel, le soleil et la lune, séparés le jour et la nuit. Et on voit que Dieu est à côté, il n'est pas immanent, il est à côté de la création. Donc, image narrative avec les six jours, comme je le disais, mais ces images oublient quelquefois une journée, la septième, qui pourtant est fort importante. Et là, c'est une icône russe que je vais vous montrer qui va combler ce vide. Vous avez 12 vignettes autour d'une partie sphérique au centre et vous avez les six jours de la création. L'artiste y ajoute la chute, l'expulsion du paradis, le travail, le meurtre d'Abel par Caïn. Mais vous avez au centre cette merveilleuse image de Dieu prenant un bain de soleil. Il est couché, entouré des séraphins, il se repose, et là la Bible dit, il voit que l'œuvre est bonne et belle. Et vous remarquez aussi que les temps ont passé et Dieu est représenté comme un plus vénérable vieillard que tout à l'heure, si je puis dire. De par leur forme, les roses de nos cathédrales se plient bien à un récit narratif comme celui-ci. Je ne vais pas détailler, nous sommes ici à Reims et je vous montre simplement que la présence du Créateur est ici et au plus près, juste au-dessus de lui, eh bien, c'est la création de l'homme. Je m'en voudrais, ou peut-être vous m'en voudriez, de ne pas voir quelques images de la chapelle Sixtine, la voûte de la chapelle Sixtine, l'œuvre de Michel-Ange, 1508-1512, la plus difficile à regarder parce qu'elle est riche, parce qu'elle est foisonnante et parce qu'elle est très haute, fort lointaine. Voici le premier jour, Dieu sépare lumière et ténèbres, et c'est un tourbillon, Dieu n'est que vie, mouvement, dynamisme. Et c'est assez curieux, on peut regarder l'image dans n'importe quel sens. C'est une espèce de tournoiement de lumière. Dans la journée suivante, ou plutôt les deux jours suivants, vous avez la végétation, le troisième jour, vous voyez la verdure, et puis le soleil et la lune à droite. On remarque que du côté du soleil, le jour, eh bien, les anges sont éclairés. Du côté de la lune, la nuit, ils sont dans l'ombre. On remarque aussi que la représentation de Dieu, là, est le summum de l'anthropomorphisme, avec un visage jupitérien. Et j'attire votre attention sur la façon de représenter la face postérieure de Dieu qui a soulevé des tollés et des scandales à l'époque. Mais exactement. L'image peut-être la plus connue, celle de la création d'Adam, l'expression de l'humanisme de la Renaissance, magnifique, un corps d'Adam extraordinaire. On se rappelle que avant tout, Michel-Ange est sculpteur, bien avant d'être peintre. Et il y a tout ce travail qui est celui d'un sculpteur sur la musculature et la beauté du corps humain. Mais cette beauté est alanguie, il n'a pas la force de se mettre debout et cette vitalité va lui être donnée par la venue de Dieu qui, d'une certaine façon, se hâte. Le manteau vole sous la rapidité avec laquelle il veut mettre Adam debout. Là aussi, des libertés avec le texte, puisque c'est par se toucher, ses doigts qui se touchent, que Adam va pouvoir se lever. Donc, beauté de la création, et beauté de la création qui nous invite à la contemplation. Vous avez ici une œuvre de la fin du XVIIIe siècle où vous avez une image absolument magnifique avec une douce perspective atmosphérique qui nous emmène bien loin, le fleuve nous conduit, vous avez des montagnes, vous avez des arbres, vous avez des bêtes et minutieusement représentées. Les botanistes, ornithologues, etc. ont pu reconnaître toutes les espèces. Vous avez l'homme et la femme et cette beauté de la création offerte à notre contemplation nous invite aussi à découvrir le Créateur et la beauté du Créateur. On peut relire ce que saint Paul dit aux Athéniens, que tout être humain, eh bien, à travers la beauté de la création, peut imaginer, voir, deviner, pressentir le Créateur. Et c'est vrai, il est vrai, que chaque chose créée est un enseignement que Dieu veut nous transmettre. Je cite le pape Saint Jean-Paul II, « Pour le croyant, contempler la création, c'est aussi écouter un message, entendre une voix paradoxale et silencieuse. » Une catéchèse en 2000. Certaines images, comme celle-ci, n'ont pas de désir narratif. Elles sont uniques, synthétiques, et elles offrent un enseignement. Enseignement typologique, nous allons venir dessus sur ce que c'est-à-dire un lien entre Ancien et Nouveau Testament. Ce sont d'une certaine façon des images credo, si l'on veut. Regardons Cette fois-ci, nous revenons à l'art paléo-chrétien. Nous sommes dans la première moitié du IVe siècle et ce sarcophage a été trouvé dans les fondations de Saint-Paul-hors-les-Murs à Rome. Il est conservé au musée du Vatican. Sarcophage fort bien travaillé, composition classique. Dans l'imago clipeata, au centre, nous avons les époux qui faisaient préparer leur tombeau de leur vivant. Nous avons des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Vous reconnaissez ici Daniel avec les lions. Vous voyez les jarres de Cana, les pains de la multiplication des pains. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce qui se passe à gauche. Regardons. Ici, nous avons image de la création. Vous avez Dieu. Vous avez Ève, vous avez Adam couché. Et regardez, 1, 2, 3. C'est peut-être une des toutes premières représentations iconographiques de la Trinité. Trois personnages semblables, même âge, même barbe, même taille, même vêtement, l'égalité des personnages. Cependant, on peut distinguer. L'un des trois est assis et fait le geste d'autorité, le geste de la prise de la parole. Le Père, faisons l'homme à notre image. Un autre touche la tête d'Ève, lui qui s'approche le plus de l'être humain, lui qui va prendre la condition humaine et s'incarner, c'est le Fils. Et dans ce cas, vous avez l'Esprit ici. Donc la création est l'œuvre de la Trinité tout entière opérant ad extra. Et la volonté dans ce sarcophage, j'ai employé le mot typologique, est de montrer que des personnes ou des scènes de l'Ancien Testament sont des types ou figures du Nouveau Testament. Saint Augustin a donné l'adage « Le Nouveau Testament se cache dans l'Ancien et dans le Nouveau, l'Ancien se dévoile ». Mais déjà, saint Paul utilisait le procédé et ici, il est illustré. Qu'avons-nous en dessous ? Oh, j'ai oublié quelque chose, mais tant pis, je vais le montrer après. Qu'avons-nous en dessous ? Eh bien, nous avons le même trône et un des trois personnages. Sur le trône, nous avons la Vierge Marie tenant l'enfant et vous avez les mages reconnaissables à leur coiphure, à cette époque bonnet phrygien, ils viennent de l'Asie, et puis avec leurs cadeaux. Ce que je voulais faire remarquer ici en haut, c'est que en fait, Adam et Ève sont représentés deux fois. Vous avez le moment de la création, Adam et Ève, où ils sont encore en taille enfant, si je puis dire, pas adulte. Et puis vous les avez ici, en taille adulte, avec cette fois-ci, le Christ. Le Christ, comme il est habituellement représenté dans l'art des premiers temps chrétiens, l'art paléo-chrétien, c'est-à-dire jeune et imberbe. Que tient-il à la main ? Une gerbe de blé qu'il donne à Adam, un agneau qu'il va donner à Ève. L'homme et la femme sont appelés à travailler. Ils bêchaient, Adam bêchait et Ève filait les vêtements. Mais c'est aussi la danse fort lointaine du pain qui est nécessaire à la vie, qui sera le pain eucharistique et du sang de l'agneau sacrificiel. Donc nous avons ici lointainement une annonce. Et cette annonce est en écho avec la scène des mages, parce que ici donc Marie, le personnage, un des personnages de la Trinité, l'Esprit qui touche Marie de son ombre, la couve de son ombre, la création trouve cet accomplissement en cet enfant que viennent adorer les mages. À la création, Dieu fait jaillir la lumière. À l'épiphanie, les nations reconnaissent la lumière du monde. Une seconde image qui veut aussi présenter, sans désir de raconter, comme un condensé de la récréation, c'est une œuvre magnifique, pas très très loin d'ici, il faut quand même aller de l'autre côté des Pyrénées, c'est en Catalogne, à Gérone. Il s'agit d'une immense, on l'appelle tapis de la création, c'est en fait une immense broderie, 3,60 m sur 4,70 m, destinée à orner la cathédrale de Gérone pour les grandes fêtes, une commande princière, pense-t-on, les dernières années du XIIe siècle, siècle, il y avait eu un synode dans la ville de Gérone. Vous remarquez que nous avons un cercle inscrit dans une forme carrée. C'est donc l'univers entier, le ciel et la terre. Cette broderie, parce que plus que d'un tapis, c'est d'une broderie qu'il s'agit, a été restaurée en 2012. Elle est maintenant présentée dans le musée diocésain, malheureusement derrière une vitre, et même hélas derrière deux vitres. C'est pour ça que vous avez la jonction des deux vitres au milieu de ma photo. C'est une image cosmique. Aux angles, nous avons les astres. Ici, Sol, Luna, le soleil et la nuit. Nous avons également, je n'ai pas le temps de tous les montrer, les quatre vents qui sont en même temps symboles des quatre points cardinaux, nord, sud, etc. Le calendrier est présent. Et le calendrier est présent, vous avez une allégorie de l'année et puis une représentation de chacun des mois par les travaux. J'aime énormément ce laboureur ici qui est en train de pousser sa charrue avec le petit bonnet. Et puis déjà, c'est le printemps, ça commence à pousser image de vie. Donc l'allégorie des mois, les travaux agricoles, les occupations des paysans, les jours. Alors j'ai simplement apporté le jour du soleil qui est resté, qui est dans la langue anglaise, dans la langue allemande, Sunday, que nous avons transformé, nous, en jour du Seigneur. Mais vous avez ici le soleil, le Christ, soleil levant. En haut, la colombe de l'esprit. La colombe de l'esprit plane sur ce que la Bible appelle le tohu-bohu, une masse un peu informe, et vous avez en dessous le Créateur. 12e siècle, le Créateur sous forme christomorphe et même très jeune, imberbe. On voit qu'il a un nimbe crucifère quand même. Il prend la parole. Il lève la main en signe de parole, il crée par sa parole, par le logos. Et puis, une admirable variété de la création. Regardez la beauté, l'imagination de cette broderie, de ces couleurs. Ici, les volatiles. Un peu plus bas, les animaux de la mer, poissons, anguilles. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est, hippopotame, rhinocéros, je ne sais pas. Peu importe. Et tous ces animaux sont présentés à Adam pour qu'il leur donne un nom. Nous sommes là dans le récit, le second récit de la Genèse. Adam donne le nom, ce qui est une façon, la puissance de la parole étant là, de prendre possession de la nature. Mais c'est aussi, et là c'est le pape François que je vais citer, être responsable de cette nature, puisque la création nous est donnée à garder, c'est-à-dire à protéger. Je cite, « La conscience que chaque créature reflète quelque chose de Dieu a un message à nous enseigner. L'assurance que le Christ a assumé en lui-même ce monde matériel et qu'à présent, ressuscité, il habite au fond de chaque être en l'entourant de son affection comme en le pénétrant de sa lumière. La conviction que Dieu a créé le monde en y inscrivant un ordre et un dynamisme que l'être humain ne peut oublier. Et voici, cependant, que parmi toute cette faune extraordinaire, Adam ne trouve pas l'âme sœur. Adam ne trouve pas un être humain qui lui soit assorti. Et Dieu fait tomber un profond sommeil, et c'est la création d'Ève. Adam n'est pour rien là-dedans, c'est un don total. Voici l'ensemble à nouveau. Vous reconnaissez les différents détails que je vous ai montrés. Vous avez une image très originale. Je ne crois pas en avoir vu beaucoup dans cette forme-là. Il y a des formes en spirale. Là, vous avez en fait comme un instant, il n'y a pas de déroulement temporel, en un instant et hors du temps, la totalité du monde créé comme un rayonnement qui part du centre, qui part du Créateur. Et l'inscription dit « Fiat lux, que la lumière soit, et lux facta est, et la lumière fut ». Cette vie donnée, cette création, elle est faite pour être transmise. Elle est confiée à l'homme, et Dieu ne cessera de renouveler son alliance et sa promesse d'une descendance. et nous allons évoquer Abraham et la promesse de la descendance d'Abraham. J'ai pris cette merveilleuse œuvre de Van Gogh, La nuit étoilée. Et Van Gogh écrit lui-même « Il me semble que la nuit est encore plus richement colorée que le jour. » En face de la voûte célèbre, céleste, j'ai un besoin terrible, dirais-je le mot, de religion. Alors je vais la nuit dehors pour peindre les étoiles. Sentiment d'interrogation, d'espoir, peut-être celui d'Abraham, somptuosité que la nuit lumineuse. Attention, vous allez avoir un choc. Nous franchissons les siècles et nous arrivons au XXe siècle avec Chagall. Et cette promesse d'une descendance comme les étoiles du ciel, elle va se concrétiser à cette rencontre que nous donne, relate la Genèse, chapitre 18, avec la promesse d'un fils. Vous avez la venue, c'est une sorte de récapitulation de la vie d'Abraham avec cette rencontre ici, les trois êtres divins. On y a vu une image lointaine de la Trinité, les trois messagers, et ils sont reçus par Abraham. On sait qu'Abraham a eu beau et connu beaucoup de départs sur la parole de Dieu, et vous avez tout en haut l'évocation de ces départs avec le dromadaire. Il part vers le pays que je t'indiquerai. C'est donc dans la confiance que se fait ce départ, mais la main de Dieu est là, immense, pour le guider. Et cette rencontre a membré, les messagers divins vont être reçus. Et nous savons que Abraham donne l'ordre d'aller tuer un veau, de préparer à manger, la bonne hospitalité orientale, et Sarah arrive avec un plat tout fumant. Et la promesse est inouïe. L'an prochain, à pareille époque, tu auras un fils. Mais comment ? Ils sont tous les deux fort âgés, marqués, en fin de vie. Et on sait que Sarah va dissimuler un sourire. Comment moi, à mon âge, connaîtrai-je encore le plaisir ? Et c'est une scène que Chagall représente plusieurs fois, et il montre une attention particulière à Sarah. Et là, je fais une petite parenthèse pour vous montrer deux images où Sarah est vraiment mise en valeur et présente. Vous avez ici la rencontre de Membré, vous avez les trois hôtes, mais vous avez Sarah seule, qui là, sourit, rit, reçoit l'annonce. Et donc, j'aime bien cette façon de dire que l'annonce est pour elle aussi. Et puis, deuxième moment qui n'est absolument pas dans la Bible et où Chagall place Sarah, c'est au moment du sacrifice d'Abraham. Vous apercevez le couteau, la main qui va arrêter Abraham au moment où il va sacrifier son fils, mais vous avez la présence de la mère, la présence de Sarah, que je rapproche un peu d'une certaine façon ici à la présence de Marie au pied de la croix. Changeons d'époque et de style. La Renaissance. Florence, les portes du paradis, les portes du baptistère. La porte du paradis, c'est celle-ci, travail auquel Ghiberti a consacré toute sa vie, réalisant les panneaux de deux portes, et notamment celle-ci. Voici le panneau consacré à Abraham. Admirez-en la technique, la finesse, la beauté, le travail sur plus ou moins de profondeur, la ciselure, et il faut savoir aussi que ces portes avaient été arrachées et abîmées au moment de l'inondation qui avait frappé Florence, qu'elles ont été restaurées et qu'elles sont maintenant, pour des raisons de conservation, dans le musée derrière la cathédrale. Ce que l'on voit sur place, ce sont des moulages, mais ça c'est la véritable œuvre, et l'avantage c'est qu'elles sont magnifiquement présentées. Il y a un travail de muséographie absolument étonnant. Vous avez la rencontre de Membré, les trois anges, Abraham, Sarah qui écarte la porte de la tente pour écouter, entendre. Vous avez la marche, et les serviteurs sont restés là, regardez le raccourci sur la monture, et vous avez le sacrifice en haut. Donc, don d'une descendance, et ce don est tellement riche que Abraham est non seulement le père, nous le savons, d'Ismaël et d'Isaac, mais il est appelé aussi le père des croyants. Et c'est pourquoi, au tympan de nos églises, on voit très souvent Abraham, comme ici, tenant une petite âme dans ses bras. Ici, il s'agit de l'illustration de la parabole de Lazare et du mauvais riche. C'est donc l'âme de Lazare qui est là, mais très souvent, il a plusieurs âmes. Il accueille les élus. Et je vous ai apporté, encore une fois, une image pas très loin de chez nous. C'est Estelia, cette fois-ci, San Miguel d'Estelia. Et nous sommes à la fin du XIIe siècle. Vous voyez que l'ange tient par la main un défunt, et que Abraham en a plusieurs. Une œuvre moins connue, absolument étonnante aussi, c'est cette mosaïque romane. Elle se trouve à l'extrémité des Pouilles, tout en bas de la botte italienne, XIIe siècle, et c'est un arbre de vie qui se déploie. Les personnages bibliques sont en haut, et à gauche, curieusement déformé, vous avez Abraham, qui tient en effet une petite âme, et comme il y en a beaucoup, beaucoup à accueillir, eh bien, il se fait aider par son fils Isaac. Autre naissance inespérée, cette fois-ci je passe au Nouveau Testament, celle de Jean-Baptiste, que nous rapporte l'évangéliste Luc. Élisabeth et Zacharie étaient juste devant Dieu, mais ils n'avaient point d'enfants. Et Élisabeth le concevait non seulement comme une douleur, mais comme une honte également. Et voici l'annonce à Zacharie, porte en bois de cèdre, qui se trouve à Rome, 5e siècle. Zacharie est prêtre, il est vêtu d'habits sacerdotaux. Il va au temple pour brûler l'encens, faire son office de prêtre. Vous voyez que le temple de Jérusalem, mon Dieu, est représenté comme une basilique, y compris la croix, peu importe, et voilà que l'ange lui annonce une naissance prochaine, un fils qui sera grand devant le Seigneur. Et nous savons que lorsque la Vierge Marie apprend par l'ange de l'Annonciation cette future naissance, elle part immédiatement vers sa cousine, et voici cette rencontre de la Visitation. J'ai choisi une tapisserie ici, avec des cartons de Philippe de Champaigne et Jacques Stella. Pour la petite histoire, cette série de tapisseries de la Vierge Marie avait été offerte par un chanoine à Notre-Dame de Paris, puis c'était passé de mode, donc le chapitre de Notre-Dame en avait fait don au chapitre de Strasbourg, qui l'a gardé un certain temps, et puis il n'en a plus eu l'utilité ni le goût, et on l'a retrouvé il y a une vingtaine, 20-30 années, roulé devant les toilettes du séminaire. Ça a été, grâce au ciel, nettoyé, remis en place, et aux grandes périodes liturgiques, c'est exposé dans la cathédrale de Strasbourg. Vous avez donc cette rencontre, Élisabeth devant sa cousine, cet enfant qui a été donné, bienheureux, celle qui a cru, et cette phrase d'Élisabeth, nouveau, vous le savez, l'admirable chant de Marie, « Mon âme exalte le Seigneur », le Magnificat. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est la présence de Zacharie et de Joseph, et mon Dieu, ils sont là, et c'est bien normal. Naissance donc de Jean-Baptiste, j'ai choisi un tableau qui n'est pas très connu, découvert dans un musée de Lin, une douceur dans ce tableau, toute simple. Vous avez Élisabeth, là, qui est couchée avec une mine fatiguée, mon Dieu, normal, une jeune accouchée, un joli petit coussin sous la tête. Vous avez le regard qu'elle a vers son enfant et vers Marie qui tient Jean-Baptiste, Marie elle-même enceinte de Jésus. Vous avez les femmes autour, et puis vous apercevez à gauche notre Zacharie qui écrit le nom, nom prescrit, nom que l'ange lui avait dit de donner à l'enfant. Il ne pouvait le dire de vive voix, il était devenu muet à la suite de son incrédulité. Il écrit donc, cet enfant s'appelle Johann, Jean, et il retrouve la voix pour chanter la gloire de Dieu, et c'est Tintoret cette fois-ci, un style bien différent, plus théâtral, splendide, la beauté des couleurs vénitiennes, la beauté des vêtements, des soieries du XVIe siècle, l'enfant que l'on soigne, que l'on lave, que l'on nourrit, vous avez la nourrice qui est là, Élisabeth au fond, et ici Zacharie, qui chante « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël ». Il est clair, bien sûr, que au-delà de toutes ces naissances inespérées, celle qui, pour les chrétiens, les dépasse toutes, c'est celle de l'Annonciation à Marie, celle où Dieu lui-même choisit de prendre chair dans notre humanité. Les scènes de l'Annonciation sont multiples, et je suis sûre que vous en avez dans la tête et dans l'œil une ou l'autre. Eh bien, je ne vais pas vous en montrer. J'ai choisi, au contraire, quelque chose de plus rare, c'est une annonce à Joseph. Je l'aime énormément pour le côté simple, intime, les détails. Nous sommes chez Joseph, il y a l'établi et les outils du charpentier, il y a les objets familiers, de quoi se laver les mains, une serviette, des livres. Marie est occupée à coudre et vous avez ce joli détail des laines et des fils de couleurs différentes, la boîte à ouvrage. Vous admirez l'élégance de Marie, les doigts très fins, c'est le gothique international, et on voit aussi qu'elle est très visiblement enceinte, ce qui plonge Joseph dans une perplexité profonde et une angoisse sans nom. Ils n'ont pas habité ensemble, elle est donc coupable. S'il la dénonce, comme il doit le faire, elle sera lapidée. Que faire ? La répudier en secret ? Ils sont séparés, remarquez-le, par un pilier, image de cette incompréhension. Et il faudra l'intervention d'un ange pour dire à Joseph que cet enfant est l'œuvre de l'Esprit. Je vous montre l'ensemble à nouveau. Goûtons et accueillons ce mystère de la maternité de Marie, la venue du Fils de l'homme prenant chair en notre humanité pour nous conduire vers le Père. Le don de la création, le don de la vie, certes, maternité, paternité, naissance, mais c'est aussi tout un accompagnement pour protéger, soigner, nourrir, faire croître cette vie. Et les parents savent que, mon Dieu, c'est sur des années que cela dure. En premier, c'est nourrir, et les repas sont nombreux dans la Bible. Reconnaissez-vous ici, les Juifs avec le petit chapeau typique du Moyen-Âge qu'on les obligeait à porter, du pain qui tombe, oui, c'est la manne dans le désert. Le peuple est dans le désert, il est sorti d'Égypte sous la conduite de Moïse et il meurt de faim et le peuple râle. Le peuple passe son temps à râler, c'est pour nous faire mourir de faim que tu nous as fait sortir. Et Dieu fait tomber la manne. Et elle tombe comme une pluie, et étrangement, ça ressemble un peu à une hostie, n'est-ce pas ? Une des magnifiques et quelques 120 stalles de la cathédrale d'Amiens, début du XVIe siècle, des merveilles de variété, de détails, sculptées dans du chêne, polies avec amour, et détaillant presque verset par verset, des grands passages de la Bible. Et vous avez ici, on ne voit plus la Bible tomber, par contre, on voit les Hébreux qui la ramassent. Et on sait qu'on la reçoit chaque jour. La veille du Shabbat, où on ne travaille pas, on reçoit double portion pour deux fois, mais on ne peut pas faire de provision. Le don de Dieu, on l'accepte quotidiennement par la confiance, on ne l'engrange pas. De même, lorsque la soif se fait sentir, eh bien, Moïse va frapper le rocher et l'eau du rocher va jaillir. Voici une tapisserie des Flandres. Ces dons relatés dans l'Ancien Testament sont également présents dans le Nouveau et les voici réunis sur un autre de ces sarcophages, un peu plus, non de la même époque que celui que je vous ai montré tout à l'heure, très joliment sculpté aussi. Et vous avez ici les jarres de Cana, les pains, des paniers de la multiplication des pains. C'est donc le don du pain, de la nourriture, le don du vin qui réjouit le cœur de l'homme. Et ces miracles suscitent l'action de grâce, vous la voyez, les mains ouvertes, de Laurente en prière. Une mosaïque moderne. Et je sais que certains parmi nous vont la reconnaître. Elle est en Suisse, c'est une mosaïque de la fin du XXe siècle, et vous avez ici la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. La Samaritaine vient faire son travail. Elle vient puiser l'eau et Jésus lui demande de l'eau. Et il y a tout un dialogue où petit à petit Jésus l'amène à comprendre que cette eau, eh bien, c'est une eau jaillissante en source de vie éternelle. Et en toute logique, cette rencontre trouve sa place dans le baptistère de l'église, de l'abbaye Saint-Maurice en Suisse. Et j'aime beaucoup que l'on place à côté l'arbre de vie. Cette eau, elle permet la vie et elle est donnée donc au baptême. Tout à l'heure, nous avons dit que la manne ressemblait à des hosties et vous avez ici la scène pour le coup, le jeudi saint, un relief allemand d'une composition serrée avec une grande variété de physionomie. Et tous les nombreux repas du Christ, et beaucoup sont racontés dans l'Évangile durant les années de sa vie publique, culminent à ce don annoncé « Ceci est mon corps » et annoncé, commenté par saint Jean au début de son évangile, chapitre 6, « Vos ancêtres ont mangé la manne, ils sont morts. Moi, je suis le pain vivant, et celui qui mangera ce pain vivra jamais. » Vous avez là un triptyque bourguignon, et vous avez donc au centre la scène et de chaque côté deux images de l'Ancien Testament, toujours ce lien de typologie dont je vous parlais. Bien sûr, l'Eucharistie est au centre. Regardez la variété des personnages. Saint-Pierre, assez intériorisé. Saint-Jean, regardant le Christ. Celui qui est devant là, roux, c'est Judas, le traître. Et puis la présence du commanditaire, donateur, un chanoine, qui d'une certaine façon montre que, eh bien, ça n'est pas quelque chose de terminé, mais c'est quelque chose qui continue encore maintenant. Donc, Eucharistie au centre, et de chaque côté, Abraham et Melchisédek, l'offrande du pain, et ici, la manne dont nous parlions. Donc, donner la vie et nourrir la vie, mais c'est aussi la guérir. Et nous avons beaucoup de scènes de guérison dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Je ne vous en ai apporté qu'une ici, un petit panneau de Duccio. Nous avons un artiste siennois, nous avons le Christ et les disciples qui touchent les yeux de l'aveugle, lui rendant la vue, et cet aveugle est représenté deux fois. Il se retourne, voyant enfin, pour rendre grâce et chanter. Une œuvre contemporaine pour la guérison du paralytique. Là, c'est Arcabas, peintre qui est mort tout dernièrement, qui a beaucoup travaillé en Europe et entre autres à Saint-Hugues de Chartreuse, tout près de Grenoble, et j'ai eu la joie de le découvrir in situ il y a peu de temps. Vous avez ici le Christ faisant lever le paralytique. Il faut quelques instants pour le découvrir. Il est de couleur sombre. Il n'arrive pas à se mettre debout, mais il va être pris comme dans la spirale de l'or, l'or de la vie divine qui va le mettre debout. Nous sommes dans les années 1980 à peu près pour cela, et cette église Saint-Hugues de Chartreuse est absolument totalement décorée par le peintre Arcabas. Remettre debout, guérir, ça passe forcément par la guérison du corps, certes, mais la guérison du cœur. Et j'ai choisi l'épisode de la femme adultère. Vous l'avez ici, un tableau de Lorenzo Lotto, nous sommes donc au XVIe siècle, et vous avez un cadrage très resserré, on est tassé autour de cette femme, on l'accuse avec des expressions qui vont de la concupiscence au dégoût, on n'existe plus, il faut la lapider, et voici qu'au centre, eh bien, le Christ, d'un geste, ouvre un espace. Elle va pouvoir respirer, et c'est ça, le pardon, ne pas rester enfermé dans sa faute. Lotto, donc, italien Renaissance, et je vous en ai apporté un autre, même scène, bien différente, c'est Nicolas Poussin cette fois-ci, avec toute l'influence italienne en même temps, une composition en frise, comme sur les sarcophages, un arrière-plan antique, on sait que Nicolas Poussin a passé plus grande partie de sa vie à Rome. Et là, le Christ fait appel. Les gens, on voit que les gens se dispersent et ils ont des attitudes variées. Certains seraient déjà prêts à ramasser la pierre pour lapider la femme, mais le Christ les renvoie à leur conscience. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et mon Dieu, les uns après les autres, ils partent. Jésus ne condamne pas. Jésus dit « va » et ne pêche. Pardon, pardon, qui remet debout pour permettre un nouveau départ, c'est éminemment celui accordé à Marie-Madeleine. Et là, c'est le plaisir de vous montrer cette œuvre de Georges de la Tour. Nous sommes dans les années 1640 à peu près, un thème qui lui tenait à cœur puisqu'on en connaît quatre versions. Je vous apporte celle du Louvre chez nous, mais il y en a aux États-Unis également. Vous avez Marie-Madeleine repentante, Marie-Madeleine méditant, douce, méditative. Malraux a dit une fois, on entend le silence. Oui, on voit Marie, toute simple. Elle médite sur la vanité de la vie, le crâne est là. La fragilité qui est celle de cette petite lampe à huile avec une mèche. Il y a la croix, il y a la parole. Et ses yeux voient l'espérance dans cette fragilité, ce pardon donné. C'est enfin rendre à la vie. La Bible nous donne des exemples de résurrection. Pour l'Ancien Testament, j'ai pris la rencontre d'Élie et de la veuve de Sarepta. C'est Bourges, vitrail de Bourges ici. Vous avez donc Élie, le prophète persécuté, qui rencontre cette femme et lui demande à manger. Il vient de faire une longue route. Et la femme répond, j'ai une poignée de farine et un peu d'huile. Je fais un pain, nous mangeons et nous mourrons. Et dit la Bible, la jarre de farine ne s'épuisa pas et l'huile continua. Mais l'enfant meurt et voilà que Élie le rappelle à la vie. Dans le Nouveau Testament, eh bien, c'est Lazare, le retour à la vie de Lazare, une enluminure à nouveau, délicate ici, et bien différent, mais très savoureux dans sa vigueur, un relief de la résurrection de Lazare, du retour à la vie de Lazare. Vous avez le Christ, malheureusement, les avanies lui ont coupé la tête. C'est le seul personnage qui est droit. Il se tient droit au centre. Et puis, vous avez toutes les variétés des mouvements des femmes, les deux sœurs, et des disciples autour de Lazare. Lève-toi. Eh bien, il faut conclure. Et si nous reprenons les différentes parties de ce que nous avons dit, la création, le don de la vie, le soin de la vie, nous voyons que tout s'ordonne et prend son sens plénier avec le Christ, que tout est récapitulé en lui, comme dit saint Paul. Dieu nous dévoile le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les choses, les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ. Dès la création, l'homme n'a de sens que dans le Christ. Voici le portail nord de la cathédrale de Chartres, premières années du XIIIe siècle. La création est présente dans les voussures en se répondant. À gauche, la parole de Dieu et à droite, sa réalisation. Il dit et cela fut. Ici, il s'agit du soleil et de la lune. Vous avez les deux là. Mais ce qui m'intéresse le plus maintenant de vous montrer, c'est ce qui se passe ici. Vous avez la création des animaux, des oiseaux. Mais déjà là, dans la pensée de Dieu, vous avez l'homme. La figure de l'homme est ordonnée. Toute la création est ordonnée à l'homme. La figure de l'homme est déjà là. Et alors, ce qui est extrêmement touchant, c'est que cet homme, il se ressemble, mais il n'est pas fini, d'une certaine façon. Il a encore, il n'est qu'une ébauche, les traits sont encore indécis. Il va lui falloir grandir pour atteindre la pleine stature promise. Alors, oui, ainsi le don total de la vie, annoncé tout à l'heure, se déploie. Par son incarnation, voici une annonciation qui se trouve à Bâle, le Christ va assumer toute la nature humaine, la naissance, Une nativité, Philippe de Champaigne, où l'obscurité est éclairée par la lumière, et vous voyez que la lumière part de l'enfant, irradie. Toute une vie donnée, une vie publique donnée, et ici c'est un calvaire breton que j'ai choisi pour reprendre le don du pain, le don du corps. Et enfin, le dernier ennemi, la mort déjà, et l'évocation de la mort du Christ. L'évocation de la mort du Christ, eh bien, c'est cette merveilleuse Pietà qui est à Moissac que je vous montre, où la Vierge, toute jeune, enfantine presque, tient le corps de son fils sur les genoux, avec la beauté et l'innocence de ce visage, tellement jeune, plus jeune que son fils. Et l'histoire ne s'arrête pas là, à la mort. De par sa résurrection, le Christ a vaincu le dernier ennemi, la mort. Et là, un retable 1920 qui nous montre le tombeau vide. Vous avez, c'est un artiste du moment du Bauhaus, 1920, et vous avez le tombeau, vous avez l'ange, mais là, c'est un creux. Le corps, le tombeau est vide. Et donc, enfin, par son ascension, par son retour vers le Père, c'est la glorification de la nature humaine du Christ, et donc celle de l'humanité tout entière rassemblée en lui, puisqu'il est le premier-né d'une multitude de frères. Alors ce don de la vie déjà effectué, déjà présent pour chacun de nous, sera pleinement réalisé pour l'éternité. Et je vais terminer avec cette image de la Jérusalem céleste, où comme une coupe offerte, on retrouve toute la création, toute l'humanité dans le don de la vie. Accueillons-la et je vous remercie de votre attention.
Le don de la vie que nous dit la Bible à travers l'art. Vous venez de suivre l'intervention de Béatrice Bustaré, historienne de l'art, intervention enregistrée le 16 juillet 2019 en l'église de Saint-Jean-de-Luz.
Regard de femme. Vous venez de suivre une conférence enregistrée en l'église de Saint-Jean-de-Luz lors des mardis de l'été 2019, un cycle de conférences proposé par la paroisse Saint-Pierre de l'Océan.